La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire. La voix de l'autre continue de s'intéresser aux personnes différentes, singulières, aux personnes extraordinaires et à ceux qui les accompagnent. Dans cette émission, je vais vous parler une nouvelle fois du trouble du spectre de l'autisme. Dans des chroniques précédentes, nous avons échangé avec Françoise, qui a deux enfants autistes, et aussi avec le docteur Myriam Kabissi, pédiatre à l'hôpital Fléria. Elle participe au diagnostic précoce de ce trouble. Aujourd'hui, on s'intéresse à une approche thérapeutique, la psychomotricité. Elle est utilisée aussi pour les enfants autistes. Bonjour, aujourd'hui la voix de l'autre suit celle de Mathilde Duchosal. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Mathilde, vous êtes psychomotricienne. Vous travaillez avec des enfants et des adolescents au centre psychothérapique de l'Ain, d'une part au centre d'évaluation et de diagnostic de l'autisme de l'Ain, le CEDA 1, et d'autre part au centre médico-psychologique, CMP, pour enfants et adolescents de Bourg-en-Bresse. Alors pour commencer Mathilde, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la psychomotricité ?
Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un métier qui est plus récent que les autres. Du coup, la psychomotricité, on pourrait résumer ça par la prise en compte des fonctions motrices d'un être humain, mais corrélée à sa vie psychique. Voilà. Du coup, c'est beaucoup le corps du patient, ses mouvements, mais par rapport à la relation aux autres, à autrui, comment est-ce qu'un être humain se vit, lui, son corps, dans un environnement face à l'autre.
D'accord. Donc, vous êtes un soignant.
Oui, on est dans le paramédical. Du coup, la psychomotricité, c'est sous prescription médicale. Il faut qu'il y ait un médecin qui ait fait la prescription à un patient de psychomotricité pour que voilà, nous, on puisse intervenir. Si possible, il nous donne des angles voilà, du projet de soins. Mais sinon, nous, on fait un bilan psychomoteur. Donc, on a des items, on regarde les capacités d'équilibre, de coordination, la construction du schéma corporel d'un patient, sa latéralisation. Les repères aussi dans le temps, dans l'espace, et surtout le tonus voilà, d'un patient. Le tonus, pour peut-être expliquer, c'est les fonctions un peu musculaires, ligamentaires, corrélées encore une fois à la vie psychique, c'est-à-dire si un enfant ou une personne âgée, un adolescent, est très tendu dans son corps. Au contraire, s'il est tout mou, voilà, c'est comment un peu le corps exprime des choses au travers voilà, des moyens qu'il a pour dire s'il va bien, si voilà, un peu qu'est-ce qui se passe pour ce patient-là, sans les mots en tout cas, qu'est-ce que son corps nous traduit. Et donc, après le bilan psychomoteur, où je viens de vous dire les 7 items, découle le projet de soins. Voilà. Du coup, on est soignant, on va dire en tout cas, voilà, dans le paramédical.
D'accord, donc vous pouvez lire, Mathilde, la vie psychique de quelqu'un dans son corps ?
Alors non, on ne peut pas lire la vie psychique de quelqu'un. Déjà, on ne peut pas lire dans sa tête. Ce sera que ce que le patient nous dira de lui ou son entourage. Parce que si c'est un enfant, c'est beaucoup les parents qui vont nous raconter l'histoire du corps de cet enfant. Mais c'est quand même le corps, oui, qui est raconté, qui est parlé, mis en mots. Mais des fois, les mots, ce n'est pas si simple que ça. Et du coup, le corps peut en effet dire des choses. Et nous, on a vraiment une écoute et une attention particulière aux manifestations corporelles, mais qui vient de la pensée du psychisme. Donc évidemment, par exemple, j'ai déjà parlé du tonus, quelqu'un qui est tout tendu, ou tout ce qui est les tocs, par exemple, des mouvements involontaires, des gestes trop rapides ou trop lents, un corps qui bouge tout le temps aussi, ça c'est voilà, un corps qui bouge pas assez. En tout cas, qu'est-ce que le corps nous montre et comment est-ce qu'il peut être vécu par le patient ? Parce que l'idéal, c'est qu'on soit bien dans son propre corps, et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est même presque un challenge de toute une vie, d'être bien à l'intérieur de soi-même. Parce que c'est vrai que nous, en psychomotricité, on a vraiment le corps, mais pas de la dimension médicale, comme peut le vivre un kiné, un ostéopathe, même un médecin, peut-être une infirmière. Voilà, nous, c'est vraiment le corps habité. Du coup, le corps qui est pensé, qui est vécu, et comment on pense son propre corps, comment on le vit. Donc là, ça peut intervenir la notion d'image du corps, la notion de schéma corporel. Donc, c'est des concepts que nous, voilà, on travaille. C'est la base de notre métier, voilà, comment on pense son corps, comment on se le représente, comment est-ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est vrai que le corps, c'est ce qui fait qu'on est en relation avec l'autre. Même si on parle, évidemment, il y a la voix, il y a le langage, mais le langage peut dire des choses que le corps peut éventuellement dire l'inverse. Ou, voilà. Et nous, notre travail, c'est que ça soit harmonieux entre les deux, entre ce que pense le sujet, ce qu'il montre avec son corps, ou à l'inverse, qui montre avec son corps ce qu'il peut dire. Si c'est corrélé entre les deux, c'est vrai que voilà, c'est signe de bonne santé et le patient le vit. Et si des fois, il y a des discordances ou des choses, on voit que c'est pas, on va dire, pas unifié.
Et votre travail de psychomotricienne, alors vous, c'est principalement avec des enfants et des adolescents, mais est-ce que c'est le seul public avec lequel peuvent travailler les psychomotriciennes ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes, les psychomotriciens.
Oui, dans une promotion, c'est vrai qu'il y a vraiment très peu d'hommes, mais il y en a quelques-uns, en effet. Non, vraiment, la psychomotricité, ça s'adresse de la naissance, on va dire presque, jusqu'à la personne âgée. Pendant très longtemps, ça a été ciblé sur les enfants, comme le corps est très prépondérant dans la petite enfance comparé aux mots. Mais de plus en plus, et presque heureusement aussi qu'il y a ce biais thérapeutique, le corps des adolescents, quand même, qui est aussi très important, comme il se modifie, il bouge, avec la puberté, avec plein de choses. Mais mettre des mots dessus, c'est aussi très important que il a longtemps été mis de côté, on va dire, et les adultes encore plus, qu'un adulte n'est pas que du langage, il y a aussi son corps. Et la personne âgée, vu que là, de nouveau, c'est très visible avec la perte de fonction motrice, avec des angoisses liées au corps qui arrivent d'autant plus. Mais non, vraiment, la psychomotricité, c'est du nouveau-né jusqu'à la personne âgée. Et ce qui est très intéressant, je me permets avec le nouveau-né, c'est le travail avec son entourage. Du coup, comment le corps du nouveau-né peut être mis en mots, peut déjà être pensé, mais pas par lui, du coup, du fait de sa maturation neurologique qui n'est encore pas là. Mais comment on peut parler et penser le corps déjà d'un être humain qui vient d'arriver.
Et alors, quelle est la formation, en fait, pour être psychomotricien, psychomotricienne ?
Alors, du coup, c'est un diplôme d'État en 3 ans, encore actuellement. Du coup, c'est un pourparler pour passer au niveau master, du coup, éventuellement 5 ans. Mais je ne sais pas exactement où ça en est, parce que ça a été discuté il y a quelques années. Donc, il y a quelques écoles en France. Alors, moi, il y a très longtemps, quand j'étais étudiante, il y avait 5 écoles en France. Donc, c'était très limité, avec des promotions de 50 élèves. Maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup plus, voire le double, je pense, d'écoles de psychomotricité. Donc, c'est un concours d'entrée avec 2 matières. Il y avait un QCM et des questions de biologie. Et le nombre de participants était autour de 500 à 1000 par concours. Il y a 50 places dans chaque école. Et ensuite, c'est 3 ans d'études. Voilà, pour avoir son diplôme d'État à la fin.
Et c'est des années d'études, j'imagine, qui sont... avec des apports théoriques, mais aussi avec des approches sur des lieux de stage, avec des psychomotriciens en poste et qui transmettent leur expérience, leur savoir.
Oui, tout à fait. On a des stages. En 2e année, il y a 3 stages, 1 par trimestre, 1 journée par semaine. Et en 3e année, par contre, là, c'est 1 journée par semaine, toute l'année, dans la même structure, ce qui permet vraiment de participer au projet d'un même patient, de le suivre, son évolution sur une année. Donc vraiment, c'est très très riche les stages, évidemment, en plus de la théorie qui est aussi primordiale.
Merci Mathilde pour toutes ces informations sur la psychomotricité. On va s'intéresser plus particulièrement à une partie de votre public, puisque vous, comme je le disais, vous êtes psychomotricienne et vous travaillez notamment avec des enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Alors tout d'abord, vous travaillez avec ces enfants au Centre d'évaluation et de diagnostic de l'autisme de l'Ain. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le CEDIN ?
Oui, du coup, c'est une antenne du CRA. Le CRA, c'est le Centre Ressources Autisme au niveau régional. Et il y a une antenne par département. Donc nous, dans le département de l'Ain, on est une toute petite équipe. On travaille très peu de temps, 3 demi-journées. Donc on est ouvert très peu de temps sur la semaine, ce qui fait aussi que les délais d'attente sont assez importants chez nous. Voilà, donc du coup, c'est un diagnostic de 3e ligne, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'un premier médecin ait eu des doutes sur le diagnostic à poser, demande à un autre médecin. Voilà, pour que nous, on intervienne, c'est que voilà, plusieurs professionnels se posent la question, savoir si, oui ou non, il y a un trouble autistique chez ce patient-là. Et c'est que pour les enfants dans l'Ain. Pour les adultes, c'est sur Lyon, du coup.
Alors, comment se passe ce diagnostic au CEDIN ?
Alors, du coup, il y a une première rencontre avec notre médecin, qui fait déjà une première évaluation avec un entretien avec le patient et sa famille. Et ensuite, ce médecin demande à nous, l'équipe, différents bilans. Du coup, avec la neuropsychologue, avec une éducatrice, des infirmières, l'orthophoniste et moi-même. Voilà. Et du coup, tous ensemble, ensuite, une fois qu'on a chacun fait nos bilans auprès de ce jeune, parce qu'il y a aussi jusqu'à 17 ans, donc il y a aussi des personnes, voilà, des grands adolescents qui se posent la question si du coup leur difficulté serait ou pas due à ça. du fait, voilà, parce qu'il y a des niveaux très hétérogènes au niveau intellectuel. Du coup, c'est vrai qu'un très bon niveau intellectuel peut compenser tes troubles autistiques. Alors que, voilà, et du coup, il y a vraiment tout est possible au niveau des symptômes. Et du coup, à voir s'il y a des diagnostics différentiels à poser ou si c'est bien de l'ordre du TSA. Donc ensuite, il y a la réunion pluridisciplinaire où on fait le bilan de toutes nos évaluations pour conclure ou pas d'infirmer ou d'affirmer le diagnostic.
D'accord, donc c'est un diagnostic pluridisciplinaire dans lequel la psychomotricité, la psychomotricienne que vous êtes, a sa place auprès des patients et dans ces éléments diagnostiques, du coup.
Oui, du coup, juste parce que c'est vrai que très récemment, il y a eu aussi au niveau sensoriel, du coup, un bilan sensoriel qui a été, dans les troubles autistiques, de plus en plus, on va dire, la sensorialité a bien été démontrée qu'elle est particulière chez ces patients-là. Et c'est depuis 2013 que ça fait partie intégrante du diagnostic, donc les psychomotriciens, depuis moins de 10 ans, on a vraiment une place tout entière pour poser le diagnostic des personnes TSA. Alors, plus du bilan psychomoteur que je vous ai déjà parlé.
Pour nos auditeurs et pour moi-même, la sensorialité, du coup, Mathilde, c'est...
Du coup, c'est... Alors, si les personnes autistes ont un trouble de l'intégration des informations sensorielles, c'est-à-dire qu'il y a de l'hypo ou de l'hyperréactivité face à un stimuli sensoriel. Par exemple, une matière...
Auditif, les sens.
Dans le sens bien sûr, il y a les cinq sens. Visuel, auditif, tactile, vestibulaire, proprioceptif. Voilà, mais donc, s'il y a des troubles du traitement, c'est par exemple des enfants qui ne sentent pas la douleur ou différemment de nous, ou un bruit qui peut être douloureux, alors que pour une personne neurotypique, à peine entendu ce bruit-là. Ou au contraire, une recherche de stimulation. L'exemple le plus courant, c'est les personnes qui adorent les objets en mouvement, ceux qui tournent, par exemple. Voilà, donc très attirés par un sens, ou au contraire, ne pas le supporter différemment d'une personne neurotypique. Et que ça, c'est vraiment des schémas neuronaux qui s'opèrent, voilà, et qui amènent du coup des troubles du comportement.
Donc dans votre autre activité en tant que psychomotricienne, vous travaillez en dehors de cette étape de diagnostic, vous travaillez au CMP et là pour le coup vous êtes dans les soins du coup auprès des enfants notamment qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et du coup c'est une séance de psychomotricité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites avec les enfants?
On joue beaucoup, on fait que jouer. Et donc c'est plutôt... Bon, alors du coup, non, on joue de manière très très sérieuse, évidemment. Donc, on a des grandes salles.
Vous jouez de manière très sérieuse, mais les enfants, ils jouent.
Les enfants, ils jouent, oui. On a des grandes salles en psychomotricien, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de matériel, on a des trampolines, des espaliers, beaucoup de ballons de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Et on crée ensemble, voilà. Et du coup, on essaye à travers tout ce matériel de mettre en scène la vie psychique du patient à travers la motricité. Donc on le suit dans un peu ses aventures, que ce soit des aventures de cache-cache, des aventures de pirates ou... de trésors cachés au fond des mers.
Merci Mathilde pour toutes ces informations sur la psychomotricité et sur la psychomotricité pour les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme.
Merci à vous.
La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire. On vient d'écouter Mathilde, psychomotricienne. Elle nous a expliqué ce qu'est la psychomotricité, mais aussi ce qu'elle peut apporter aux enfants autistes en termes de participation au diagnostic et aux soins. Les psychomotriciens peuvent aussi participer à l'évolution des connaissances et à la prévention des difficultés. L'association Connaître et Grandir, située à Minziers, en Haute-Savoie, intervient dans l'Ain, sur le Pays Gex et le bassin belgardien. Cette association est composée de plusieurs professionnels de santé, pratiquant principalement auprès d'enfants et d'adolescents. Une neuropsychologue, une orthophoniste et deux psychomotriciennes, Camille Hamon et Aurélie Bob. Connaître et grandir a pour objectif de proposer des informations fiables et accessibles sur le développement des enfants. Elle organise notamment des formations, des conférences à destination des parents, des enseignants, de toute personne professionnelle ou non intéressée par les thèmes abordés. Parmi les thèmes abordés, celui des émotions chez l'enfant ou encore celui des sept sens. La prochaine formation se déroulera le jeudi 16 février après-midi sur le thème « Les troubles du comportement en classe, que faire ?». Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Connaître et Grandir et ce qu'elle propose, je vous invite à aller consulter leur page Facebook Co, plus loin, naître et grandir. À bientôt.
La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire.